Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Bruno David. Bruno David est naturaliste spécialisé en paléontologie. Il est depuis 2015 président du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Biodiversité, c'est un terme qui est un petit peu polysémique, qui peut avoir différents usages, on peut l'entendre de différentes manières. Il est très compliqué à définir.
Au sein de cette institution, Bruno David a souhaité ouvrir la réflexion sur le rôle et l'importance de l'histoire naturelle au sein de nos sociétés. Le premier manifeste du muséum, « Quel futur sans nature ?», est ainsi un ouvrage engagé, rédigé par un comité réunissant scientifiques, sociologues et philosophes. Il réaffirme le rôle de lanceur d'alerte du muséum face à l'effondrement du vivant, à la montée de l'obscurantisme et à l'affaiblissement du discours scientifique.
On se croit très supérieur, on se croit à l'abri de beaucoup de choses. Mais en fait, on reste et on est une espèce fragile, et on est fragile parce qu'on est une espèce complexe.
Nous avons parlé de la biodiversité, pourquoi elle est difficile à mesurer et mal comprise, de l'interdépendance du monde vivant, de la sixième extinction de masse provoquée par l'humanité, de sa vision des temps qui viennent et du rôle du muséum.
J'ai peur que les cris d'alarme que les scientifiques lancent aujourd'hui ne soient pas entendus, en tout cas pas suffisamment, parce que si on allait au bout de ce qui serait nécessaire, ça veut dire un changement complet de système, de fonctionnement de la planète.
Bruno David, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes naturaliste, spécialisé en paléontologie et en sciences de l'évolution et de la biodiversité. Et vous êtes président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Le muséum a publié l'an dernier un manifeste qui s'appelle « Quel futur sans nature ?» et qui soulignait l'importance de placer l'histoire naturelle au cœur des enjeux environnementaux et sociétaux contemporains. Est-ce que vous diriez que c'est un des premiers rôles du muséum d'être un lanceur d'alerte ?
Oui, je pense que le muséum doit se positionner comme une autorité scientifique dans la société. Il doit aussi parfois savoir se positionner comme une autorité morale également, même si ce n'est pas tout à fait dans son rôle, direct en tout cas, mais je crois qu'il doit le faire. Et notamment, il doit le faire quand la situation est telle que ça l'exige. Et lancer une alerte, c'est aussi se positionner dans ce rôle d'autorité à la fois scientifique et morale.
Est-ce que vous pensez que la biodiversité et l'idée de nature reste assez abstraite pour une majorité des gens ?
Je pense qu'elle reste trop abstraite, effectivement. Les gens voient la nature quand ils ouvrent leur fenêtre le matin, ils voient éventuellement des oiseaux quand il y en a, ils voient des arbres, ils voient des fleurs. Quand c'est en ville, ils voient des pigeons, ils voient des platanes. Ils ont une notion très relative de ce qu'est la nature. Et ils en ont souvent une vision un petit peu domestiquée. Et ils, sans se rendre compte nécessairement à la fois de la complexité que cela recouvre en termes de fonctionnement des systèmes naturels et de l'utilité que ça a pour notre espèce, notre pauvre espèce Homo sapiens, qui dépend beaucoup plus du reste de la nature, puisque l'homme fait partie de la nature, qu'on le pense généralement. On se croit très supérieur, on se croit à l'abri de beaucoup de choses à partir de notre technologie, de notre thérapeutique, de notre industrie pharmaceutique, enfin, etc., etc. Mais en fait, on est une espèce fragile, et on est fragile parce qu'on est une espèce complexe.
Et justement, comment arriver à faire comprendre que l'ensemble du monde vivant est interdépendant et que on fait bien partie nous aussi de ce monde vivant ?
Alors ça, c'est un des messages que doit réussir à faire passer le Muséum National d'Histoire Naturelle. Si on le prend par le bout d'Homo sapiens, j'ai l'habitude de dire. On a plus de bactéries que de cellules dans notre organisme. Donc on a à peu près 10 puissance 13 cellules et on abrite 10 puissance 14 bactéries. Ces bactéries ne sont pas des parasites, sont totalement nécessaires à notre vie, à notre survie. Si on les enlève, on meurt. On meurt parce qu'on n'est plus capable de manger, de digérer ce qu'on absorbe. On meurt parce que toutes les bactéries qu'on a à la surface de notre peau sont une carapace qui nous protège d'agressions extérieures, notamment d'agressions par les champignons. Et si on les enlève, le système ne marche plus non plus. Et quand je fais des conférences devant des enfants, j'ai l'habitude de leur dire « ne vous lavez pas trop souvent ». Alors ça horrifie les parents, bien sûr, parce qu'il faut quand même continuer de se laver. Mais néanmoins, les gens qui se lavent trop, de manière trop agressive, souvent ils attrapent des mycoses parce qu'ils détruisent leur protection bactérienne et c'est pas bon du tout. Alors après, les gens qui se lavent pas du tout, ils ont d'autres types de parasites, souvent un peu plus macroscopiques, qu'on peut appeler des poux par exemple, ou d'autres types de parasites. Donc faut trouver le bon équilibre. Mais l'excès d'hygiène n'est pas forcément une bonne chose et on le sait très bien puisqu'un certain excès d'hygiène dans la société occidentale a conduit à une recrudescence des allergies.
Est-ce que, globalement, vous avez l'impression qu'on parle peut-être trop du climat et pas assez de l'importance du vivant ?
Alors là, je suis tout à fait d'accord. On parle trop du climat et pas suffisamment de biodiversité. Et ça m'a amené à m'interroger sur, finalement, pourquoi c'est ça. Je pense qu'une partie de la réponse est dans même le terme même biodiversité. Biodiversité, c'est un terme qui est un petit peu polysémique, qui peut avoir différents usages, on peut l'entendre de différentes manières. Et il est très compliqué à définir. On ne peut pas le définir simplement. Le climat, tout le monde voit ce que c'est. On prend une température, en gros, une humidité, il pleut pas, il fait chaud, il fait froid. La biodiversité, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un nombre d'espèces dans un endroit donné, c'est-à-dire une richesse ? Est-ce que c'est une abondance ? Il y a beaucoup d'individus. Est-ce que c'est un équilibre entre richesse et abondance ? Ce qui est aussi un concept important, c'est-à-dire qu'on peut avoir 10 espèces dans un paysage, mais c'est pas pareil si on a 10% de chaque espèce ou si on a 90% ou 91% de l'une et 1% des 9 autres. Donc vous voyez, les relations abondantes-richesse sont importantes. Ça peut être aussi une diversité morphologique, ça peut être une question de biomasse, combien ça pèse tout ça, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, est-ce que c'est visible, est-ce que c'est pas visible, est-ce que c'est un réseau d'interactions qu'on regarde, est-ce que c'est à l'échelle génétique qu'on regarde la biodiversité. C'est compliqué de définir la biodiversité. Donc déjà ça, c'est un handicap quand on veut l'expliquer à un grand public par rapport à expliquer le climat. Et le corollaire de ça, c'est que quand on veut mesurer la biodiversité, se faire une idée, par exemple, du déclin de la biodiversité, de l'état de la biodiversité sur la planète, si on prend le climat, je dis pas que c'est simple de travailler sur le climat, hein, ça demande des équations et de la physique et de beaucoup d'observations, et c'est compliqué, il y a des gros ordinateurs qui moulinent tout ça, mais néanmoins, on peut avoir une espèce d'approche assez robuste, qui est par exemple la température moyenne sur la planète. Alors c'est un concept, évidemment, c'est assez flou, on ne se rend pas bien compte de ce que c'est, puisque quand on nous dit la planète va se réchauffer de 2 degrés ou de 3 degrés à la fin du siècle, on se dit c'est pas beaucoup, parce que hier il faisait 2 degrés de moins qu'aujourd'hui, et aujourd'hui tout va bien. Mais c'est une température moyenne. Mais néanmoins, on arrive à faire passer le concept. On fait passer le concept aussi à travers les événements cataclysmiques qui deviennent de plus en plus importants, où certains climatologues considèrent qu'ils ne sont pas forcément plus nombreux, mais en tout cas ils sont plus forts. Donc ça, on arrive à faire passer le concept assez facilement. Avoir une approche globale de la biodiversité, c'est impossible. On ne peut pas avoir un indicateur qui dirait, voilà, la biodiversité de la planète, ça vaut tant cette année et ça vaudra tant l'année prochaine ou ça valait tant il y a 10 ans. On n'est pas capable de le faire parce que c'est simplement trop compliqué. C'est-à-dire que dès qu'on traite de biodiversité, on est obligé de fonctionner par accrétion en quelque sorte. On est obligé d'avoir des situations locales, d'observer beaucoup de situations locales et ensuite de combiner ces situations locales pour essayer d'avoir une approche un peu impressionniste de ce que pourrait être la biodiversité sur la planète et son état sur la planète. Ça, c'est très difficile à faire passer. Si je vais aussi chercher des comparaisons dans le nombre de paramètres qui régissent la biodiversité, donc la complexité du système par rapport au nombre de paramètres qui régissent le climat, même si le climat c'est très très compliqué, en gros on a une température, une humidité. Je simplifie à l'extrême, hein, bien sûr.
Les climatologues vont être contents.
Oui, ils vont être contents. Mes collègues climatologues vont me tomber dessus dès ce soir. Je vais avoir des coups de téléphone apocalyptiques. Mais bon, enfin dès que vous aurez diffusé votre blog. La biodiversité, on a des centaines, des milliers d'écosystèmes. On a des millions d'espèces différentes qui interagissent les unes avec les autres. Je donnais l'exemple des bactéries qu'on abrite. C'est une interaction. On abrite à peu près quelques centaines d'espèces de bactéries. Je crois que c'est 400-500 espèces ou quelque chose comme ça. Parmi nos 10 puissance 14 bactéries. C'est l'ordre de grandeur, en tout cas. Donc, vous voyez qu'il y a des interactions dans tous les sens. Et comment est-ce qu'on mesure ces interactions? Comment est-ce qu'on explique ces interactions? Comment on apprécie la qualité de ces interactions et éventuellement leur dégradation si on va vers un système qui se dégrade? C'est extrêmement difficile et donc on joue pas dans la même catégorie. On a un très gros handicap d'explication du fait de la complexité du système. Et ça, c'est irréversible. Et puis, par ailleurs, si on regarde l'ancienneté, le GIEC a 30 ans, en gros. L'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, a 6 ans. Donc on se donne rendez-vous dans 24 ans en espérant qu'on sera au même niveau que le GIEC aujourd'hui.
Justement, est-ce que vous pourriez faire un petit rappel de la situation de de l'anéantissement du vivant qui est en train de se produire, avec peut-être, je sais pas, quelques chiffres clés ou...
Oui, alors j'ai l'habitude de le faire en prenant du recul, puisque j'ai une formation de paléontologue, donc et j'aime bien comparer par rapport à ce qui s'est produit dans les temps géologiques. Dans les temps géologiques, si on ne remonte pas à l'origine de la vie sur Terre, qui a 3800 millions d'années, mais seulement sur les 5 ou 600 derniers millions d'années, on a un certain nombre de crises qui ont affecté la biosphère au cours de ces millions d'années. Il y en a 5 majeures, il y en a une cinquantaine d'autres en gros, donc ça survient en gros tous les 10 millions d'années. Alors 10 millions d'années, c'est quand même profond, parce que notre ancêtre le plus lointain caractérisé de la lignée des hominidés, des hominines, c'est Toumaï, et en Australopithèque très ancien, ça n'a que 7 millions d'années. Donc on voit qu'une crise tous les 10 millions d'années, c'est pas quelque chose qui va nous tomber sur la tête tous les jours. Il y en a 5 majeures, et on peut tirer des enseignements de ces crises, une sorte d'enseignement statistique de cette soixantaine de crises, et notamment de ces 5 majeures. Le premier enseignement, c'est que toutes ces crises ont été multifactorielles. Il n'y a aucune crise, quand elle est importante, qui soit monofactorielle. Elle n'est jamais due à un seul facteur. C'est très souvent le climat qui, in fine, va affecter la biosphère, mais avec des causes en amont qui vont faire changer le climat, qui sont différentes. Ça peut être des éruptions volcaniques, ça peut être très très occasionnellement des météorites, mais c'est vraiment très occasionnel et c'est pas un facteur absolument majeur, contrairement à ce que l'imaginaire nous enseigne ou nous fait croire. Ça peut être la distribution des continents, ça peut être de l'anoxie, donc une perte d'oxygène au fond des océans, ça peut être des choses comme ça, qui combinées vont faire en sorte que bon, il y a une crise de la biosphère. C'est toujours multifactoriel et c'est pas très intéressant de savoir quel est le facteur le plus important pour la crise X. On sait que c'est multifactoriel. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est également multifactoriel. C'est-à-dire qu'on a de la pollution, on a de la surexploitation des ressources, on a de l'usage des espaces, des territoires, hein, l'urbanisation par exemple, les routes sur les territoires continentaux. On a du déplacement d'espèces avec les espèces invasives. Donc on a tous ces paramètres, la pollution, le changement climatique aussi. Donc on est vraiment dans un système également multifactoriel avec des facteurs qui vont interagir les uns avec les autres. Donc c'est pas un système si simple que ça non plus. Et puis le deuxième enseignement qu'on a de ces crises, c'est que ces crises n'ont jamais été des hécatombes. Je répète très souvent, une crise ne fait pas de mort. C'est-à-dire que les crises du passé n'ont pas tué des individus. Sinon, on aurait des bancs fossiles qui seraient remplis de squelettes ou remplis de coquilles pour les animaux marins ou aquatiques. C'est pas le cas. Les bancs qui correspondent aux instants des grandes crises géologiques sont des bancs qui sont vides. Il n'y a plus personne, en fait. Et ça s'est produit parce qu'il y a progressivement, de génération en génération, un affaiblissement du succès reproducteur. C'est-à-dire que de génération en génération, il y a de moins en moins d'individus. Il y a de moins en moins d'individus d'une espèce, puis d'une autre espèce, puis d'une troisième espèce, etc. Et ça finit par affecter gravement les écosystèmes qui se détériorent et puis qui finissent par conduire à l'extinction, à la disparition. C'est une sorte d'effacement progressif de la vie sur Terre. Mais c'est pas quelque chose qui va leur tomber sur la tête et qui va brusquement tuer tout le monde. C'est pas un événement, c'est pas une météorite qui va tuer tout le monde. Ça ne s'est jamais produit comme ça. Ça, c'est une hécatombe. Les hécatombes sont généralement locales. Si je fais une petite parenthèse, une crise, les caractéristiques d'une crise, c'est d'être globale. Ça doit affecter l'ensemble de la biosphère, ou pratiquement toute la biosphère, toute la Terre, toute la planète, pas seulement une région ou un endroit. Ça doit concerner pas mal de groupes différents. C'est pas simplement un groupe. C'est pas simplement les crustacés ou les lapins de Garenne qui vont être affectés. C'est beaucoup de groupes qui sont affectés. Et puis c'est relativement rapide, du moins rapide à l'échelle géologique, c'est-à-dire que ça peut se mesurer en centaines de milliers d'années ou en millions d'années, mais c'est un peu l'ordre de mesure dans le système géologique. Donc on a ces trois facteurs qui permettent de définir une crise. Donc ce que je disais, c'est qu'une crise, ça ne faisait pas de mort. C'est une diminution du succès reproducteur. Il y a de moins en moins d'individus sur la planète, de beaucoup d'espèces et à beaucoup d'endroits. Et c'est un petit peu ce qu'on observe aujourd'hui. C'est ça qui m'inquiète le plus depuis quelques années. J'étais moins inquiet, j'aurais été beaucoup moins inquiet, j'aurais un discours beaucoup moins négatif il y a seulement 5 ou 10 ans. Là, j'ai vraiment un discours qui devient très pessimiste parce que les analyses les plus récentes qui sont sorties montrent qu'il y a une diminution en effectif, et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'espèces extraordinairement communes. On a vu que ça avait touché les oiseaux. Il y a eu des papiers qui sont sortis récemment. Il y a eu pas mal de bruit médiatique autour de ça avec le printemps silencieux. Le muséum et le CNRS en ont parlé le printemps dernier. Il y avait eu des articles qui étaient sortis il y a deux ans et demi, trois ans sur la disparition des oiseaux communs en Europe. Là encore, ce ne sont pas des espèces qui disparaissent. Les espèces sont toujours présentes, mais simplement les effectifs ont diminué d'à peu près un quart, ce qui fait 420 millions d'oiseaux en moins en Europe. Donc c'est beaucoup quand même. On a vu ça sur les insectes, je vais y venir. On les a, ça a été utilisé en Allemagne, mais ça se constate aussi en France. Je veux dire, tout le monde a dit, bah, il y a qu'à regarder les pare-brises des voitures. Effectivement, il y a moins d'insectes. Alors même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de guêpes cet été, c'est un autre sujet. Mais il y a moins d'insectes globalement. S'il y a moins d'insectes, il y a moins d'oiseaux insectivores. Ils vivent moins bien. Oui, tout ça, c'est lié. Il y a moins de mammifères. Ça concerne bien sûr les grands mammifères emblématiques. Hein. On va parler de l'ours blanc, on peut parler de l'éléphant, du rhinocéros, etc. Et c'est très triste de voir ces espèces disparaître. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a de moins en moins de hérissons écrasés le long des routes. Alors, c'est pas que je tienne à voir des hérissons aplatis le long des routes. Mais c'est pas que les voitures ont appris à éviter les hérissons ou les hérissons à éviter les voitures. C'est parce qu'il y a moins de hérissons qu'il y a moins de hérissons tués. Et pourtant, c'est une espèce qui était banalité totale. Et il y en a moins. Et c'est exactement comme ça qu'ont fonctionné les crises anciennes. Donc on avait de moins en moins d'individus, d'espèces finalement, qui pour l'époque aussi étaient des espèces ordinaires. Et au bout du compte, ça finit par déstabiliser les écosystèmes, à les faire basculer dans de nouveaux équilibres et à complètement bouleverser la planète.
Et on peut bien parler alors de sixième extinction de masse ?
Alors je pense qu'on peut parler de sixième extinction. En tout cas, on est sur une dynamique qui peut conduire à une sixième extinction et qui risque de plus en plus fortement d'y conduire. Plus on attend, plus ça risque d'y conduire. Je pense qu'on peut parler effectivement de sixième extinction. Ceci dit, si on mesure ce degré d'extinction en nombre d'espèces éteintes depuis 200 ans ou 300 ans, enfin, ou un peu plus même depuis que la révolution néolithique, il n'y a pas tant que ça d'espèces éteintes. Il y a des espèces en danger d'extinction aussi, mais c'est pas tant que ça. On est vraiment au tout début du voyage. On est encore très loin du compte par rapport aux grandes crises qui ont affecté la biosphère dans le passé. Si on pense à la crise qui a séparé l'ère primaire de l'ère secondaire, la crise Permien-Trias, on a 96% des espèces marines qui ont disparu à ce moment-là. Aujourd'hui, on a quelques pourcents d'espèces vraiment éteintes, et puis on a entre 10 et 20% d'espèces qui sont potentiellement en danger d'extinction, à plus ou moins long terme. Donc vous voyez qu'on est encore très très loin du bout. Par contre, si on regarde, là ce sont les amplitudes, maintenant si on regarde la vitesse, donc la pente en fait de la courbe, jamais la biosphère a été face à une pente qui allait à cette vitesse-là. Quoi. Ça a toujours été des phénomènes beaucoup plus lents, beaucoup plus étalés dans le temps. Là on est sur un ordre de grandeur qui est de l'ordre de 800 à 1000 fois plus rapide que ce qui s'est produit dans le passé. Donc c'est très très inquiétant, parce qu'on va à une vitesse folle. Donc on est encore loin du mur en quelque sorte, qui va conduire à une crise majeure, qui sera une crise majeure, mais par contre on s'y dirige très très vite. Donc on n'a pas tant de temps que ça pour réagir.
Et je vous ai souvent entendu prendre la métaphore de la voiture, du véhicule qui va dans un mur. Est-ce que vous ne pensez pas que plutôt qu'un mur, on est déjà sorti de la route ?
Alors,
qu'on a déjà quitté la piste, quoi, tellement ça paraît fou.
Oui, si on veut, oui. La route devient de plus en plus, il y a beaucoup de nids de poules là, en ce moment, en quelque sorte. Donc le chemin, effectivement, devient de plus en plus dégradé. Et au bout du chemin dégradé, si on prend une autre métaphore, il y a le précipice, quoi. Et on va tomber dans le trou. Et en fait, on va tomber dans un trou. Il y aura encore une route au bout, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une biosphère sur la Terre. Mais ça sera une autre biosphère, on ne sait pas laquelle. C'est vraiment un saut dans l'inconnu. Est-ce que l'homme aura sa place dans cette biosphère ? C'est rien n'est moins sûr. On ne sait pas. Et si on est vraiment honnête, personne n'est capable de le prédire, et je ne pense pas qu'on soit en capacité de le prédire, même dans les décennies qui viennent. Parce que c'est trop compliqué, parce que, comme je l'expliquais, tout ça, c'est le fruit d'interactions absolument multiples entre espèces. Chaque espèce a ses capacités d'acclimatation, de résilience, d'interaction avec les autres, et on n'est pas capable de le modéliser. J'ai travaillé dans ma vie de chercheur sur des oursins dans l'océan austral, en Antarctique, en essayant de voir, d'essayer de comprendre si jamais ces oursins pouvaient s'adapter à un réchauffement climatique. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est des modèles de distribution. Alors on les fait, hein. C'est très intéressant de faire ce genre de modèles de distribution avec des cartes de probabilité de présence. On va dire la probabilité de présence de l'animal machin à tel endroit, si les conditions changent de tel pourcent ou de telle quantité de degrés pour du réchauffement, leur probabilité de présence est de 70%, alors qu'aujourd'hui c'est de 100%, ou 40%, ou 10%. Ça, on est capable de le faire. Mais ce qu'on n'est pas capable de faire, c'est de mesurer la capacité d'acclimatation de cette espèce. Parce que ça, on ne la connaît pas, parce qu'on n'est pas dans cette situation. Est-ce que finalement, cette espèce va être capable de s'acclimater ? Est-ce que le fait que la température change, ça ne va pas amener un prédateur ? Ou ça ne va pas faire disparaître une source de nourriture ?
Il faut prévoir les rétroactions possibles.
Et les rétroactions, il y en a des milliers et des milliers pour même un petit bout d'écosystème. Simplement parce que il y a des, si on intègre les micro-organismes, il y a des centaines d'espèces dans chaque petit morceau qu'on va pouvoir prendre. Un petit morceau de sol, il y a des centaines d'espèces de champignons, de virus, de bactéries. C'est la même chose au fond de la mer avec des nématodes, d'autres types de bactéries, etc. On ne sait pas faire. Il faut accepter notre ignorance. Je pense que c'est un de nos gros défauts d'être dans l'incapacité d'accepter notre ignorance. Il faut se dire qu'on est ignorant, qu'on bénéficie et que notre espèce est arrivée sur une planète avec un certain équilibre, que cet équilibre était favorable à notre espèce, enfin nous permettait à nous, Homo sapiens, de bien vivre sur cette planète. Nous sommes en train de détruire cet équilibre. L'équilibre nouveau qui pourrait en ressortir n'est pas prévisible, on est incapable de le prévoir, et donc on ne sait pas s'il nous sera favorable ou défavorable. C'est un petit peu comme de jouer à la roulette russe.
Vous pensez quand même que l'espèce humaine peut être menacée? Enfin, oui, pourrait disparaître.
Ah, à terme, moi je pense que l'espèce humaine peut être menacée, tout à fait. Parce que, je le disais tout à l'heure, on est une espèce fragile, on est une espèce qui est complexe. Notre complexité nous rend fragile, nous fragilise. Donc ça, c'est absolument certain. Et on n'est pas à l'abri d'une épidémie majeure, d'un bouleversement des écosystèmes tels qu'on ne pourra pas s'y adapter, sans compter les conséquences que ça aurait sur nos sociétés, les conséquences sociales. Un bouleversement trop important ou très important des écosystèmes, au-delà du changement même climatique, simplement bouleversement des écosystèmes, pourrait faire que ça génère des conflits, des tensions telles que ça dégénère en conflits. Vu l'arsenal dont dispose l'humanité, on peut imaginer ce que donnerait ce genre de conflit, si ça dérive vers du conflit avec armes biologiques, etc. Puis regardez notre fragilité. Je vais vous donner un exemple de fragilité. Depuis un peu plus de 30 ans, il y a eu l'épidémie de sida. C'est une maladie sexuellement transmissible qui a quand même fait pas mal de ravages. Et on a bien vu qu'au début de l'épidémie, on ne savait pas ce que c'était. On a mis des années à découvrir le virus et on a mis encore des années à trouver un traitement qui soit un traitement palliatif, qui n'est pas d'une efficacité totale d'ailleurs. C'est mieux que rien, mais enfin, ce n'est pas non plus la panacée. On n'a pas résolu complètement le problème. Imaginez un instant que le virus du sida, au lieu de se transmettre par voie sexuelle comme c'était le cas, soit transmis comme le virus de la grippe. Ça faisait combien de centaines de millions de morts sur la planète? Peut-être plusieurs milliards. T'es optimiste, hein?
Ouais, non, mais je suis pas de nature très optimiste en ce moment non plus. Sur les modes d'action actuels de la protection et de la conservation de la biodiversité, j'ai plusieurs questions, mais quels sont les grands moyens d'action? Et en fait, la question qui sous-tend tout ça, c'est est-ce qu'on ne fait pas finalement que de mettre la nature sous cloche pour la protéger?
Alors je pense que la pire des choses, ça serait d'abord de vouloir transformer la Terre en un jardin et l'océan en un aquarium. Ça serait d'une prétention folle, parce que comme je le disais, les systèmes sont complexes, et vouloir les jardiner ou les organiser à notre main, ça serait le meilleur moyen de que ça fonctionne pas. Ça fonctionnerait pas à l'échelle de la planète, ça nous rendrait pas les services qu'il faut, on risquerait de manquer d'oxygène par exemple, on risquerait d'avoir des ressources essentielles à notre survie qui fonctionneraient pas ou qui fonctionneraient un moment et puis qui finalement s'effondreraient. Donc ça marche pas. Je pense qu'il faut éviter de penser mettre sous cloche la biodiversité. Il faut sortir d'une logique de territoire. Sortir d'une logique de territoire où on aurait des territoires où on protégerait la biodiversité et où on aurait des territoires où on pourrait tout faire. Il faut sortir de cette logique parce que c'est une logique qui est complètement délétère et qui est très mauvaise. Il y a des territoires où il faut qu'on protège la biodiversité. Je pense que c'est totalement nécessaire. Il faut pouvoir conserver ça, mais ça n'est pas suffisant. Il faut, sur les autres territoires, savoir aussi protéger la biodiversité, tout en permettant à notre société de s'épanouir et puis à chacun de vivre. Mais il faut aussi peut-être penser à changer nos modes de vie, à changer nos habitudes, à faire en sorte de laisser plus de place à la biodiversité qu'on ne le faisait auparavant. Et la biodiversité, encore une fois, ce ne sont pas seulement les petites fleurs et les petits oiseaux, c'est aussi beaucoup le monde invisible. On a un système agricole qui a contribué pour beaucoup à détruire la biodiversité des sols. On le sait maintenant. Et d'ailleurs, on tente à revenir en arrière, à essayer de faire autrement, à avoir des pratiques culturelles qui préservent la biodiversité des sols, par exemple. Tout ça, c'est des choses qu'il faut arriver à faire rentrer dans le fonctionnement de nos sociétés. C'est essentiel. Si on n'y arrive pas, on ira encore plus vite vers le déclin et la catastrophe.
Justement, il y a eu cette année, enfin dans les mois qui sont passés, beaucoup de constats, beaucoup d'appels sur la catastrophe écologique de la part de scientifiques, de personnalités diverses et variées, qui invitaient à une action massive et coordonnée. Pourtant, on n'a pas l'impression que les choses bougent véritablement et la mobilisation reste assez faible. Est-ce que vous pensez qu'on pourra arriver à agir positivement si on persiste à poser le problème dans le cadre du système économique qui l'a créé en grande partie?
Ça, c'est une question difficile ou trop difficile ou trop simple. Si je vous réponds franchement, je pense qu'on n'y arrivera pas. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Et si on se tourne vers l'histoire des sociétés humaines, les sociétés qui ont été confrontées à des crises majeures sont toujours allées au bout de leur démarche catastrophique et sont allées dans la crise. J'ai peur que les cris d'alarme que les scientifiques lancent aujourd'hui ne soient pas entendus, en tout cas pas suffisamment, parce que si on allait au bout de ce qui serait nécessaire, ça veut dire un changement complet de système, de fonctionnement de la planète, de fonctionnement de l'ensemble de nos sociétés. Parce que si, imaginons que la France change de système complètement, ça suffira pas. Si tout le reste de la planète continue de fonctionner comme avant, tout ce qu'on aura réussi à faire, c'est effondrer notre économie, effondrer notre modèle social. Se mettre en danger, et mettre en péril, créer des fractures au sein de la société française qui seraient épouvantables. Donc la solution, elle est forcément globale. Et quand on voit le concert des nations, je suis pas très optimiste pour aller vers une solution globale. Quand j'entends certains discours outre-Atlantique plus à l'est de notre pays, c'est pareil. Je pense tous ces gens-là qui sont les grandes puissances mondiales n'ont pas nécessairement cette conscience. Ils ne l'ont pas du tout en fait. Hein. Donc je suis pas très optimiste. Et il y a que quand on sera vraiment confronté, qu'on sera vraiment dans une crise aiguë, que peut-être on aura la tentation de réagir. Mais regardez ce qui s'est passé en 1914. Il y avait une course aux armements qui a commencé 20 ans avant. On le savait bien qu'il y avait une course aux armements. On a failli avoir une guerre en 1905 avec l'affaire marocaine, de nouveau je crois en 1908. Enfin, il y a eu plusieurs moments de crise avant la crise finale de 1914, de juin 14, c'est un événement apparemment relativement anodin. Alors pas anodin pour la personne qui était concernée, mais enfin l'assassinat de l'archiduc le 28 juin 14, qui fait que le truc s'est enclenché. Mais tout était prêt avant. Donc la civilisation européenne de l'époque était en capacité d'analyser cette situation et de savoir que cette situation n'était pas saine. Et ça n'a empêché personne d'aller jusqu'au bout. Donc là, c'est mondial. Et la question, elle est vraiment mondiale. La question, elle n'est pas locale. Il faut évidemment que localement, on agisse. Je ne dis pas qu'il ne faille rien faire localement. Chaque geste qu'on pourra faire localement est important. Mais la solution est mondiale. Et c'est ça qui me rend assez pessimiste sur le fait que l'humanité soit suffisamment intellectuellement responsable pour se prendre en charge et dire stop, là, ça ne va vraiment pas. Il faut qu'on change complètement et on change radicalement de modèle. Parce qu'on a construit un modèle depuis des décennies maintenant, hein, depuis en gros 150 ans ou un peu plus même, on a construit un modèle qui est un modèle, mais oui, quand je dis 150 ans, c'est en fait beaucoup plus, hein, c'est depuis le début, depuis la révolution néolithique, on exploite la planète.
Et de voir autant d'inaction au niveau global, d'inaction ou même de recul à certains égards, qu'est-ce que ça vous provoque comme émotion?
Ben, moi, ça m'attriste, parce que j'aimerais bien qu'on fasse plus de choses. Mais personne n'est exemplaire. Moi-même, je ne suis pas du tout exemplaire. Hein, je me jette la pierre en me disant en aparté avant d'enregistrer, mais qu'on est tous un petit peu schizophrènes entre le discours intellectuel et scientifique que je peux tenir et puis finalement mon comportement quotidien. Il y a un écart que j'espère pas trop grand, mais enfin qui existe quand même. Donc c'est difficile. Après, savoir ce qu'on doit faire au quotidien, ce que chacun doit faire dans son coin ou ne pas faire, c'est à chacun de se poser la question en son âme et conscience. Je pense qu'il y a un écueil à éviter de la part des scientifiques, ça serait de donner des leçons. Il faut pas donner des leçons aux citoyens d'une manière générale. Il faut alerter. On est en position d'alerter, de dire attention, si on continue comme ça, voilà ce qui risque d'arriver. On est vraiment sur une mauvaise pente. Il faut faire très, très attention à ce qu'on fait. C'est dangereux. Il y a ça qui se passe. Écoutez, on vous alerte. Mais vous savez, il y en a beaucoup qui entendent ça et puis qui disent, mais finalement, moi, je me lève le matin, bon, tout va bien, hein, le soleil brille, tout va bien. Je vois pas où est le problème. Mais parce qu'on s'habitue à ça aussi. Je vous parlais de déclin progressif des espèces. C'est un petit peu comme de se regarder dans le miroir chaque matin. On a l'impression d'être comme la veille. Puis au bout de 10 ans, on se dit, tiens, ça a changé un peu quand même, si on ressort une vieille photo. Hein. Mais vous voyez, c'est un peu ça. Et la biodiversité, c'est pareil. On la regarde, puis on s'habitue. C'est un déclin progressif. C'est un petit peu moins par là, un petit peu moins par là. Ça change un peu là, puis ici. Et puis on s'habitue. Et puis, ma foi, bon, on a l'habitude de voir moins d'oiseaux, moins d'insectes, moins de lapins de garenne, moins de hérissons. Et puis voilà. Et puis pour le moment, il n'y a pas de bouleversement. Mais au bout du bout, on peut arriver à une érosion telle de certaines espèces que ça provoque une déstabilisation des systèmes qui basculent dans d'autres états, ces autres états rendant d'autres services ou ne rendant pas de services à l'humanité.
Et est-ce que vous pensez que dans ce contexte où c'est assez difficile de faire bouger les choses, il faut accepter de faire des compromis et du coup d'être plutôt dans une politique des petits pas? Est-ce qu'il faut accepter ça, même si ça peut être une compromission aussi?
Moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut savoir lancer des cris d'alerte suffisamment forts, et je pense que le muséum doit le faire, et il le fait à travers ce manifeste. On va publier un deuxième manifeste cette année, un troisième l'année prochaine. Mm-hmm. On fait des tribunes, on fait des ouvrages, on fait des conférences, on explique dans des expositions aussi un certain nombre de choses. Enfin, on mobilise les médias, on agit pour lancer des cris d'alerte. Mm-hmm. Mais au quotidien, sauf à vouloir... on est dans un système social qui a lui aussi son équilibre, qu'on peut pas déséquilibrer du jour au lendemain. Et comme je vous le disais, ça peut pas être un pays qui le fait tout seul dans son coin. Il faut que ça soit plus global. Je vois pas d'autre issue que de faire des petits pas. Mais il faut être très vigilant sur ces petits pas. Il faut en faire le plus possible, le plus souvent possible, et les faire les plus grands possibles. Mais c'est deux choses qui doivent aller de pair. C'est lancer une alerte générale. Mais le système ne va pas changer du jour au lendemain. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je veux dire. On peut lancer là, le plus grand cri d'alerte qu'on veut, ça va continuer quand même. On va pas changer l'économie mondiale. On va pas dire brutalement, on arrête la mondialisation, on ne fait que de la production locale, il y a plus que ça, on arrête tout, ça créerait des déséquilibres qui conduiraient à des conflits. Armés, cette fois. Entre pays, entre nations, voire au sein des nations. Et c'est pas ça qu'on veut non plus. Donc il faut trouver une autre solution pour avancer.
Parce que du coup, bon, chacun à notre niveau, on peut faire des petites choses, mais je suis pas persuadée que ça soit vraiment le levier le plus important, parce que c'est aussi un peu moralisateur de dire aux gens éteignez votre robinet, etc. Alors que bon, on sait bien que les leviers d'action ils sont pas là. Est-ce que vous avez des relations avec des dirigeants politiques ou des gens qui peuvent impulser vraiment des choses? Et si oui, quel genre de relations vous pouvez avoir avec
Je ne vais pas parler de moi à titre personnel, je vais parler du muséum. Voilà. Je vais parler du muséum. Le plan biodiversité de Nicolas Hulot, alors qu'il était encore ministre, a été présenté au muséum. Donc on a accueilli le gouvernement et j'ai même eu la possibilité de prendre la parole devant le gouvernement pour expliquer l'urgence de la situation. En beaucoup plus bref, je vous ai tenu le discours que je suis en train de tenir. Pour alerter des ministres dont c'est pas le métier ou la sensibilité sur le sujet. Après, ils écoutent, ce qu'ils entendent, je ne sais pas. Mais en tout cas, le message est délivré. Et je pense que vraiment notre rôle, c'est de délivrer ce genre de message et de le délivrer avec insistance. Alors après, on peut fatiguer par la répétition. Parce que comme je vous le disais, finalement, comme c'est un déclin assez doux pour le moment, les gens disent, mais ça continue comme avant. Pourquoi moi, je changerais? Pourquoi il faudrait pas que je prenne ma voiture le matin? Pourquoi je pourrais pas faire ça? Puis vous parliez de petits gestes. Vous disiez chaque geste que chacun peut faire pour soi. Peut faire soi-même pour la planète en général. Vous parliez du robinet. Bon. Je vais prendre un autre exemple que j'aime bien, c'est l'utilisation de son véhicule pour, par exemple, emmener ses enfants à l'école. Dans les villes standards européennes, donc pas trop grandes, pas la taille de Paris ou de Londres, mais des villes plus petites, standards, le trajet moyen en voiture, il fait moins de 500 mètres. 500 mètres, franchement, ça se parcourt en 10 minutes, hein, même pas. D'accord ? Et souvent, c'est pour emmener les enfants à l'école ou aller faire une petite course ou des choses comme ça. Si on prend ça et qu'on se dit il y a 20 millions de citoyens européens qui cessent tous les matins de faire 500 mètres en voiture. 20 millions de fois 500 mètres, ça fait 10 millions de kilomètres tous les jours. 10 millions de kilomètres tous les jours en moins, parcourus par des véhicules. C'est un tout petit geste, mais ce qui compte, c'est la multitude qui l'applique. Donc, il y a à la fois des petits gestes, mais il y a le nombre de personnes qui vont appliquer ce geste-là. Et c'est les deux paramètres qu'il faut arriver à combiner. Alors, il faut aussi faire des grands gestes. Quand il y a un positionnement politique, un règlement politique qui dit on va interdire tous les néonicotinoïdes ou interdire le glyphosate ou faire ceci ou faire cela, ça a du sens. Mais les petits gestes ont également du sens si on arrive à convaincre un très grand nombre de personnes de les faire. 20 millions de personnes en Europe sur 500 millions d'habitants, vous voyez, c'est pas surdimensionné. Et si on arrive à le faire, ça fait 10 millions de kilomètres en moins tous les jours. Et vous faites ça, mettons, 200 jours par an, ça fait 2000 millions de kilomètres, c'est-à-dire 2 milliards de kilomètres parcourus en moins.
Et pour rester sur la question politique, est-ce que ça ne serait pas une évidence que le monde politique ait une formation scientifique plus intense, quoi ?
Alors ça, c'est un grand souhait. Je pense qu'effectivement... la culture, et notamment la culture naturaliste, totalement absente, beaucoup trop absente du cursus de formation, et pas que des politiques, hein, même des citoyens en général. J'ai aussi une habitude de dire, en France, si vous proférez que Victor Hugo est l'auteur du Bourgeois Gentilhomme, on va vous prendre pour un crétin fini. Imaginez un dîner en ville, comme on dit... Et vous dites, oui, je suis allé voir la pièce de Victor Hugo, Le Bourgeois Gentilhomme, ou j'ai lu le roman de Victor Hugo, Le Bourgeois Gentilhomme, et on va dire, quel malade. D'accord. Ou Delacroix a peint Les Demoiselles d'Avignon. Bon, très bien. Scandale. Si, toujours de l'ordre de ce même dîner en ville, quelqu'un dit les huîtres sont des crustacés, ça passe très bien. Et l'erreur est du même ordre. Donc ça veut bien dire que fondamentalement dans notre culture, dans la manière dont nous sommes formés, on ne pèse pas de la même manière une culture plutôt littéraire, domaine sciences humaines et sociales, et une culture naturaliste. Et ça c'est regrettable parce que compte tenu de la crise environnementale devant laquelle nous sommes et dans laquelle nous avons commencé l'entrée, il serait urgent que les gens aient une culture naturaliste. C'était l'objectif du manifeste du muséum, d'attirer l'attention sur la nécessité d'avoir plus d'histoire naturelle au XXIe siècle. L'histoire naturelle, elle a joué un grand rôle dans la manière dont les sociétés se sont pensées elles-mêmes au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, à certains moments de l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de plus d'histoire naturelle pour aider la société à se penser elle-même, à forger des citoyens responsables également. Il y a un autre aspect de l'histoire naturelle auquel je tiens beaucoup, c'est que l'histoire naturelle, c'est une discipline d'observation. Vous observez des objets naturels, que ce soit des cailloux, des fossiles, des plantes, des animaux, peu importe. Vous observez des objets naturels et ça vous impose une certaine éthique intellectuelle parce que ça vous impose de respecter les faits. Et ça, c'est un levier formidable contre l'obscurantisme. L'obscurantisme qui nous menace et qui menace nos sociétés dans différents domaines. Et ça, c'est pour moi, c'est en l'enseignement de cette histoire naturelle dans ce contexte-là est pour moi quelque chose d'essentiel. Et c'est un des rôles majeurs du muséum que d'enseigner ça.
Question sur le lien entre la recherche scientifique et l'action pour la protection de la biodiversité. Je sais pas combien il y a d'argent qui est dépensé pour la recherche, mais il y a un rôle d'alerte des chercheurs qui est fort. Est-ce que il serait pas temps de sortir un peu de la pure recherche fondamentale pour faire plus de l'action directe ou de la recherche appliquée, enfin je sais pas quels sont les termes exacts, mais est-ce que les chercheurs ne sont pas trop dans leur coin face au déclin en cours ?
Non, les chercheurs, ils doivent faire progresser les connaissances. Donc ça, c'est essentiel. Mais maintenant, de plus en plus, ils s'orientent aussi vers des grandes séries d'observations sur le long terme, ce qu'on faisait pas avant, ce qu'on faisait moins avant. Et c'est ça qui commence à porter ses fruits. Si on est capable de dire qu'il y a une érosion des populations d'oiseaux communs, c'est parce que depuis 20 ou 30 ans, on a un suivi scientifique extrêmement sérieux des populations de ces oiseaux avec le même protocole depuis 20 ans. C'est ça qui est important. Donc c'est vraiment scientifiquement extrêmement robuste. C'est parce que des chercheurs ont fait ça qu'on est capable aujourd'hui d'avoir mesuré les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on a là inventé un thermomètre pour mesurer l'état d'un compartiment de la biodiversité sur un territoire donné. Donc là, ils sont vraiment dans leur rôle. Après, il ne faut pas les sortir de leur rôle de chercheur. Moi, j'ai été chercheur pendant longtemps. Le chercheur, il est vraiment fait pour faire progresser des connaissances dans un domaine donné. Ça paraît de plus en plus pointu et étrange quand on n'est pas dans le domaine, simplement parce que les connaissances progressant, on peut pas avoir une connaissance universelle. Il y a 300 ans, on pouvait imaginer quelqu'un, un humaniste, comme on disait, ait une connaissance très large à la fois de la physique, de la chimie, de l'histoire naturelle, des lettres. On pouvait avoir finalement une connaissance assez vaste. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que la recherche, enfin les connaissances ayant progressé, si on veut vraiment être sur le front des connaissances, c'est-à-dire sur la recherche, on est forcément sur un domaine relativement étroit. Et c'est simplement en avançant dans la carrière qu'on peut devenir un peu plus généraliste et s'intéresser à des choses un petit peu à côté, où on devient plus vulgarisateur souvent. Mais c'est difficile d'être aussi vulgarisateur sans proférer des grosses bêtises, quoi.
Et du coup, est-ce que plus d'interdisciplinarité ou en tout cas de mêler des pans de la recherche serait souhaitable pour mieux diffuser de l'information au public?
À mon avis, c'est plus que souhaitable, c'est totalement nécessaire. C'est-à-dire que si on reparle de la crise environnementale à laquelle nous sommes confrontés, on ne pourra pas résoudre, et on l'a évoqué un petit peu entre les lignes dans ce qu'on a dit précédemment, on ne pourra pas résoudre la question de la crise environnementale sans un apport massif des sciences humaines et sociales. Il y a une interaction entre le fonctionnement des sociétés et l'environnement dans lequel on se trouve. On ne peut pas traiter des questions d'environnement comme s'il n'y avait que l'environnement qui comptait. On ne va pas demander simplement à des écologues, des biologistes, des zoologistes ou des botanistes de s'intéresser aux questions d'environnement et dire « nous, on va vous donner la recette pour traiter l'environnement, puis tant pis pour le reste ». Non, il y a une interaction. On ne peut pas traiter des questions des poissons en mer si on n'est pas en interaction avec des pêcheurs qui, eux, tirent leurs ressources de ça. Donc, c'est bien une interaction avec des sciences humaines et sociales et c'est ce pontage qu'on doit faire. Et pour ça, le muséum est un bon endroit pour le faire aussi, parce que le muséum a une taille telle qu'on peut faire un vrai pontage entre sciences humaines et sociales et finalement autres sciences naturelles. Je dis autres sciences naturelles parce que pour moi, il y a tout un compartiment des sciences humaines et sociales qui sont en fait des sciences naturelles, qui sont des sciences de la nature. Les relations hommes restent de la nature, ça fait partie des sciences naturelles. Mmh. Et ce sont des sciences humaines et sociales. Comment l'homme se perçoit dans le reste de la nature? Quelle est la relation entre l'homme et les autres animaux, par exemple? Il y a toute l'anthropobiologie, il y a également l'ethnobiologie, au sens large, ethnobotanique, ethnozoologie, il y a tous ces compartiments qui sont traités au muséum. Et pourquoi le muséum s'y prête bien? Parce qu'on n'est pas trop trop nombreux, on n'est pas le CNRS. Le CNRS, c'est 25 000 personnes, donc c'est plus difficile à organiser dans le contexte du CNRS, même s'il y a un institut du CNRS, l'Institut écologie environnement d'où je venais, donc c'est mon institut préféré, bien sûr, qui cherche à le faire, et qui réussit à le faire d'ailleurs. Dans les universités, c'est également possible. Il y a des universités pluridisciplinaires. Je viens d'une université pluridisciplinaire où il y a toutes les disciplines qui permettraient de le faire, mais où là, il y a une attraction des sciences naturelles aux sciences traditionnelles, géosciences, écologie, évolution, etc., qui vont être attirées plutôt du côté des sciences dures. Et au contraire, les sciences humaines et sociales qui pourraient traiter d'environnement, qui vont plutôt être attirées du côté des autres sciences humaines et sociales. Et ça crée un système un petit peu disjoint où le pontage est plus difficile à faire que dans un environnement comme le muséum où on n'a pas les autres sciences dures et où on n'a pas les autres sciences humaines et sociales comme les lettres, le droit, les choses comme ça. Mmh. Et au muséum, la mayonnaise peut prendre et c'est pour ça qu'on a fait un département qui s'appelle Hommes et environnement, qui est un des trois grands départements scientifiques de l'établissement qui justement va mixer ces choses-là. Où on a des équipes qui vont travailler sur l'ethnobiologie, des équipes qui travaillent sur l'anthropologie, des équipes qui travaillent sur la biologie de la conservation et qui se retrouvent ensemble dans le même département.
Donc le prochain manifeste du muséum, ça sera donc cette année?
Oui.
Et vous pouvez en dire un mot ou pas encore?
Oh, presque.
C'est encore c'est sur la même thématique?
C'est pas du tout la même thématique. C'est aussi un sujet de société. Sujet grave de société. Donc ce manifeste sera bientôt dévoilé, on commence de le révéler à la presse, et il va, comme le blog se paraîtra un peu plus tard, je pense, il va toucher la question des migrations.
D'accord, important.
Donc vous voyez que c'est un sujet majeur. Mais là aussi, le muséum n'a pas un rôle politique direct. C'est pas au muséum de dire c'est pas bien d'accueillir des migrants ou comment faut-il voir les migrations, etc. Bon, c'est pas au muséum de donner des leçons là-dessus. Mmh. Le muséum, il prend la parole sur un sujet aussi grave que celui-ci pour expliquer ce que sont des migrations, dire que les migrations, ça ne concerne pas que l'espèce humaine. Et si on regarde l'espèce humaine, en quoi, finalement, dans le cours de son histoire depuis 300 000 ans, l'espèce humaine a-t-elle été concernée par les migrations ? Et à quel point ça l'impacte ou ça l'impacte pas ?
Intéressant.
Donc, ça sera ce sujet-là. Et l'année prochaine, on a déjà défini le sujet de l'année prochaine, mais celui-là, je ne vous le dirai pas.
D'accord. Et pour finir, face à l'immensité des défis et des catastrophes qui sont en cours et à venir, comment, à votre sens, on peut arriver à cultiver la joie au quotidien, malgré tout ?
En vivant ?
Ouais.
Tout
en
simplement.
Se reconnectant au vivant aussi.
Parce que la terre est belle, alors profitons-en et essayons de la conserver belle. Merci. Et ça, c'est fort réjouissant.
Merci. Merci beaucoup à Bruno David pour notre conversation et merci encore une fois à vous tous pour votre écoute, votre soutien et tous vos messages d'encouragement qui me touchent beaucoup. Vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes ou en me mettant 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter dans laquelle je partage des contenus qui m'ont semblé intéressants. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belaouel, mixé par Paloma Colombe. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très vite.